Écoutez-nous sur internet dw.com/français.
L'objectif de ce livre, c'est d'essayer de donner la parole à des témoins burundais, parce que nous avons justement une collection qui s'appelle Témoins aux éditions Iwachu. C'est une collection que nous avons lancée pour que les acteurs burundais, les témoins burundais, puissent avoir un espace où s'exprimer. Parce que il nous semble qu'au Burundi, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de silence, un silence d'ailleurs favorisé par une culture de la retenue, une culture du silence. Tout ce silence, ce blackout, favorise la manipulation, les manipulations, notamment les manipulations par rapport aux tragédies que nous avons vécues à travers notre histoire. Donc, c'est un livre qui est fait pour donner la parole à un homme, un journaliste, Aloïse Nuita.
Justement, j'allais vous demander pourquoi avoir choisi notre confrère Aloïse comme personnage principal de votre livre.
Écoutez, c'était tout à fait par hasard, parce que je connaissais bien Aloïse, d'ailleurs depuis le Burundi. Il est journaliste comme moi. Après 2015, il a dû quitter le pays comme moi. Alors, on s'est rencontrés dans notre exil. Et l'exil donne l'occasion d'échanger, de parler. Nous avons longtemps parlé. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert une partie de sa vie, une partie de son histoire personnelle, tragique, que je ne connaissais pas. J'ai découvert en fait qu'Aloïse avait une histoire terrible, douloureuse. Et que malgré ça, c'est un homme engagé pour la paix, un homme engagé pour la réconciliation. Et je me suis dit, cette histoire qui peut-être a été vécue aussi par d'autres, peut servir de modèle, peut être un bon cas de résilience.
Oui, en parcourant donc votre livre, Antoine Kabouraé, on se rend compte que Kanyarout Hatsi, qui est le père d'Aloïse, a été assassiné en 1972. Or, pour les Burundais, cette année est chargée d'histoire. Dites-nous pourquoi.
Écoutez, Aloïse a perdu son papa, effectivement, en 1972. Son père était un directeur d'école primaire, quelque part dans le nord du Burundi. Et il a été pris dans une rafle et il n'est plus jamais rentré, sans jugement, sans rien. Jusqu'à présent, comme des dizaines de milliers d'autres Burundais, des Hutus, principalement à cette époque, mais il y a les rafles, les massacres ont aussi fait des victimes Tutsi.
Bref, à peu près 200 000 morts, c'est ça?
Bon, je ne vais pas m'avancer sur les chiffres parce qu'il y a plusieurs versions, mais toujours, il y a eu des dizaines, voire même des centaines de milliers de morts. Alors, c'est la vie d'Aloïse, et de toute sa famille d'ailleurs, qui va être complètement ébranlée par l'assassinat du père. Et voilà, donc à partir de là, je raconte ce que la famille a vécu, ce que la famille a ressenti. C'est un peu vraiment, si vous voulez, les rêves brisés de toute une famille. Et Aloïse le raconte bien, comment cette famille va se retrouver dans la misère du jour au lendemain.
Oui, surtout que sa mère était obligée de se battre pour faire vivre les 6 enfants de la famille.
Oui, la pauvre veuve, elle a 28 ans. Et puis, cela renvoie aussi à cette question de Hutu Tutsi. Aloïse, son père il est Hutu, sa mère est Tutsi. Et plus tard, c'est quelqu'un qui va être déchiré, qui va être confronté à deux extrémismes. Notamment, il raconte bien quand il était à l'université du Burundi, au moment des crises. Il y a eu dans les années 95-96 une crise grave à Bujumbura notamment, les quartiers étaient balkanisés. Aloïse ne sait plus où aller. C'est les Tutsis, c'est un Hutu. Et c'est les Hutus, c'est quelqu'un qui a du sang Tutsi et donc susceptible d'être un traître, un infiltré. Donc c'est tout ça qu'il raconte vraiment avec beaucoup de sincérité. Mais le fil conducteur de ce livre, c'est la résilience. On peut dépasser la haine.
Mais
On peut.
n'empêche que Aloïse suscite hein, la méfiance des deux ethnies, hein, c'est ce que vous racontez dans le livre.
Effectivement, parce que pour les Tutsis en Hutu, on est dans une société patriarcale, et pour les Hutus, il a du sang Tutsi. Et donc, dans les deux camps, il n'est pas à l'aise, surtout pendant les périodes de crise aiguë. Et c'est tout ça qu'il raconte. Mais quand même, c'est ça qui est extraordinaire. Il nous pousse à nous interroger. Quel pays nous voulons laisser à nos enfants? Quel Burundi voulons-nous offrir? Voyez-vous, il dit quelque part que être victime ne donne pas toutes les raisons. Parce que ce qui est triste, ce qui est grave aussi, c'est que certains, au nom des crimes passés, au nom des injustices du passé, veulent vivre la revanche. Et vous savez que même parmi les plus hauts dirigeants aujourd'hui au Burundi, certains sont des enfants dont les parents ont été tués en 1972.
On peut parler aux familles, à la famille Nyamitwe par exemple, hein, dont les parents ont été tués en 72 également.
Pas seulement, le père du président de la République du Burundi, lui aussi, il a été victime de ces purges. Donc, il a dit quelque chose de très fort, que être victime ne donne pas tous les droits.
Ce
n'est pas parce que je suis victime que j'ai un chèque en blanc aujourd'hui pour laisser faire les exactions, les violations des droits de l'homme. Et la question qui reste toujours à travers ce livre, c'est que pouvons-nous faire? Lui, il tente une réponse en disant il faut savoir, certainement, mais il faut dépasser. Il faut dépasser absolument.
Oui, justement, en parlant de l'avenir dans le livre, vous dites hein, que tant la société burundaise est divisée, l'amoureuse Tutsi d'Aloïse était obligée de le quitter. Alors, en ce moment, Antoine Cabroyé, est-ce que la cohabitation Hutu-Tutsi est pacifique ou il y a toujours des rancœurs, des vieilles rancœurs?
Je crois que la gestion de ces blessures est d'abord individuelle. Les gens vivent différemment ces questions-là. Mais je dirais que globalement, avoir ce que nous avons vécu, les Burundais, d'une manière générale, essayent, je dis bien essayent, de dépasser ces antagonismes. Sauf que, malheureusement, ce sont les politiques qui attisent, qui réveillent ces vieilles. Bon, c'est pas si vieux que ça, 72, c'est pas trop loin. Je dirais, ce sont souvent les politiques qui jouent sur, je dirais pas sur ses peurs, mais sur ses blessures. Et ça, c'est grave. Et surtout, sur la méconnaissance de ce qui s'est passé exactement. Dans ces années-là, il n'y avait pas des réseaux sociaux. La presse était embryonnaire. Il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas WhatsApp. Et donc, il me semble qu'il est important de ne pas oublier ou dépasser ou pardonner ce que l'on ne sait pas. Quand on dit, par exemple, ces formules choquent, les Tutsis ont tué les Hutus, ou les Hutus ont tué les Tutsis, c'est très facile. Mais par exemple, moi, en 1972, j'avais 5 ans. Je ne peux pas être comptable de ce qui s'est fait à cette période. Un enfant qui n'était pas encore né, quelle que soit son ethnie, il ne peut pas être responsable de ce que ses parents ou bien sa communauté ethnique, même si vous le savez très bien, d'ailleurs, on peut contester le terme d'ethnie au Burundi, mais on ne va pas rentrer dans ce débat. Donc, comme disait, je crois, Desmond Tutu, avant de tourner une page, il faut la lire. Alors, nous, ce que nous faisons, c'est d'ouvrir cette page aux Burundais pour qu'ils puissent savoir, connaître au mieux leur histoire passée et peut-être contribuer un peu à la construction de la vérité. Bon, il y a une commission vérité et réconciliation Encore une fois, je ne vais pas rentrer dedans sur ce qu'elle fait ou sur ce qu'elle ne fait pas. Mais nous, à notre humble niveau, comme journalistes, comme écrivains, comme éditeurs, nous donnons aux Burundais l'occasion de pouvoir lire un peu de leur passé. Et ça, c'est un livre, je crois, qui va rentrer dans cette documentation-là.
Mmh, oui. Avant de nous séparer, Antoine Kaboraé, pour ceux de nos auditeurs, hein, burundais ou non, qui souhaiteraient se procurer hein, ce livre, où est-ce qu'ils peuvent se l'acheter?
Ils peuvent tout simplement aller sur notre site et il y a une adresse où ils peuvent commander le livre ou alors se rendre sur la plateforme Amazon.